vraiment, elle est immense. Et je voulais remercier particulièrement le SCP avec qui le comité 21 a des relations
de chaque côté
très proches et qui nous accueille.
Alors je vous propose de vous installer si quelqu'un peut venir pousser ceux qui sont encore en train de profiter d'un moment de lobbying.
Quand on parle de développement,
je connais à peu près tout le monde dans la salle. Moi, je m'appelle Gilles Béraud, je préside le comité 21 et
nos travaux.
Organisation, c'est une plateforme informelle qu'on a créée maintenant en 2011 qui s'appelle le Club France Développement Durable jusqu'au mois de juin. Après, je serai la main à d'autres.
Voilà, je crois qu'on parle beaucoup de climat.
Je milite dans toutes les fonctions pour deux mandats. Et donc,
moi,
j'arrêterai au mois de juin.
Que le climat est
donc, aujourd'hui, on a un sujet qui, moi, me passionne particulièrement depuis maintenant plus de 10 ans, qui est le croisement des civilisations numériques et des responsabilités de développement durable. Et on a la chance de recevoir Corinne Lepage et Benoît Thiolin. Je vous en dirai un petit peu plus. Mais d'abord, je voulais remercier particulièrement le SCP qui nous ESCP Worldwide. Universel qui nous reçoit
et qu'il faut et voilà. Je sais pas si vous avez eu là,
donc si vous voulez vous installer tous les deux mais si vous
il
dire
s'est passé
quelques
beaucoup
mots.
Chose à New York lors de l'Assemblée générale des Nations Unies.
Bonjour à tous.
D'abord le vote.
Au nom de Franck Bournois, directeur général, c'est avec grand plaisir que je vous accueille ici à ESCP Europe pour cette conférence débat autour de ces thèmes majeurs que vous allez discuter aujourd'hui. Le monde de demain, quelle économie, quelle transition numérique, quelle Europe sont évidemment les sujets. Qui interpelle un établissement comme le nôtre. Monsieur Bournois n'a pas pu être parmi nous aujourd'hui, donc je vais le citer quand il rappelle la mission de notre école et vous verrez à quel point elle s'inscrit dans ce que vous faites au niveau du comité 21. ESCP Europe s'avère un contributeur essentiel au développement d'une culture managériale européenne et internationale. Le credo de l'Europe est de rester fidèle à ses valeurs humanistes tout en anticipant les nouvelles tendances du monde.
Les 72
et donc, c'est bien l'inspiration de ESCP Europe et c'est sa mission d'être sur des valeurs à la fois prévoir, anticiper sur l'avenir et conserver ces valeurs, ces valeurs humanistes. Le total à quel de temps maintenant des négociations internationales de la COP 21, donc c'est
si on prend les perspectives du budget,
tout naturellement que nous vous accueillons ici en tant que comité 21 dont nous sommes membres depuis quelques années déjà, je pense,
degrés, hein,
et nous sommes membres fidèles et en tout cas on vous accueille le plus souvent possible. C'est pas toujours très simple dans nos activités, mais c'est avec grand plaisir. Et je salue d'ailleurs le rôle de ce comité 21 dans l'organisation de différents événements dans ces moments essentiels
la place de la santé
pour l'avenir de nos jeunes et pour l'avenir de la société
d'abord
en général.
Parce que
j'ai aussi un mot d'amitié à vous faire passer de la part du professeur Delbar, que vous devez rencontrer régulièrement à ces débats, et donc qui est aujourd'hui dans un établissement partenaire à Beyrouth pour y enseigner. Et Madame la Ministre, je n'ai pas oublié le soutien que vous nous aviez apporté lorsque vous étiez ministre de l'Environnement. Vous aviez inauguré la première formation destinée au cadre dirigeant qui s'appelait Développement durable. Je crois que c'était un stage développement durable à l'époque. Et ça date un peu quand même. Mais en tout cas, nous avions apprécié ce geste et ce soutien. Nous avons donc progressé, bien sûr, sur ces thématiques depuis lors. Je vais vous laisser donc. Vous avez des sujets très importants à débattre et je suis sûre qu'ils seront très inspirants. Et je vous invite à laisser quelques traces ici, car vous le savez, à ESCP Europe, nous avons 4000 étudiants. Avec 90 nationalités. Donc vous avez ici un vivier d'acteurs du changement. Et croyez-moi, ils sont extrêmement sensibles à ces thématiques. Et ils sont extrêmement agiles et je pense qu'ils ont envie, et en formant les leaders de demain, bien sûr, ils seront très actifs dans ces transitions, dans ces évolutions que nous appelons tous de nos voeux. Donc, excellent débat, excellente matinée, et à très bientôt, j'en suis sûre.
Oui, c'est très probable. Effectivement, on a beaucoup de plaisir à venir ici, et effectivement, à force de parler de durable, il faut quand même s'intéresser de plus en plus à assez jeune et notamment c'est 2 milliards de personnes qui sont nées depuis l'an 2000.
Donc on est sur des sujets extrêmement sérieux.
Et donc on a 2 milliards de personnes qui ont moins de 15 ans sur cette planète et c'est quand même
donc, je suis vraiment
qui sont
ravi,
plutôt bien connectés déjà, et ça, quels que soient les pays.
Travail,
et je crois que c'est pour ça qu'on est là. L'idée aujourd'hui, c'est non pas de confronter, mais de voir des points de complémentarité sur des sujets qui me tiennent évidemment particulièrement à cœur depuis quelques années. J'avais écrit Développement durable 2.0. C'est ce croisement-là. Il y a deux rapports importants qui ont été faits et qui nous ont marqués par leur optimisme et qui nous ont semblé en concordance avec le travail qu'on fait maintenant depuis quelques années à élaborer Solutions COP21 qui sera au Grand Palais dans quelques jours et qui a été fondée même sur l'esprit des expositions universelles. J'ai toujours cette image du 1er mai 1900 où les gens y rentrent au Grand Palais avec une envie d'avenir, avec envie de que ce qu'ils voient, ce qu'ils mangent, ce qu'ils touchent, les démonstrations qui sont, ils se disent mais pourquoi ça n'arrive pas plus vite, pourquoi le fameux trottoir électrique ne s'installe pas plus vite dans le métro. Et on n'est pas dans cet univers-là, on n'est pas dans cette utopie-là au moment de la COP21, et c'est bien dommage parce que c'est comme ça qu'on embarquera la société, et c'est pas en cristallisant des gentils et des méchants, ouais, c'est pas en dénonçant je sais pas qui, mais en faisant chacun un pas en avant autour d'un imaginaire partagé. Donc il y a deux rapports, Corinne Lepage qui est à ma gauche et donc à votre droite, c'est pas un match de boxe, qui est avocate, ancienne ministre, j'en dirai quelques mots, et Benoît Thiolin, qui a beaucoup agi sur les questions numériques, qui préside aujourd'hui le Conseil national du numérique. La question c'est de ces rapports, c'est comment s'inscrire dans l'avenir, comment embarquer les gens. Je crois que le mot embarquer, l'image du bateau est assez forte, et évidemment, quelle économie il y a derrière tout ça. Et Corinne n'a pas hésité à utiliser le mot « nouveau monde », donc on est toujours dans un vocabulaire d'exploration. Et je crois que c'est l'univers dans lequel on veut s'inscrire. Alors, Corinne, quand même, en dire quelques mots, on a deux Sciences Po. Bon, ils n'ont pas fait le SCP, mais il y a une formation globale et un intérêt sur l'ensemble de la société, je crois, assez naturel, forcément, qu'on fait ces écoles. Corinne s'est engagée en politique en 4. J'ai eu des petites notes. Je vous dirai pas, ils m'ont même mis la date de naissance. Je trouve ça assez indélicat. Mais je crois que des points de rencontre importants. Maire adjointe de Cabourg. Cette belle ville de Cabourg. Fondation de Génération Écologie, je pense que c'est un point de rencontre important. Et bien sûr, ministre de l'Environnement d'Alain Juppé en 1995. Et COP21, alors moi, c'est mais COP21, Comité 21, c'est pareil. Alors en plus, maintenant, il y a la COP21, vous voyez. Là, on est obligé de faire de la pédagogie tout le temps. Des engagements aussi dans une approche centriste, députée européenne jusqu'en 2014, et donc deux rapports. Alors Corinne a une actualité très très chargée en ce moment, cette économie du nouveau monde et la déclaration universelle des droits de l'humanité, et d'ores et déjà je vous donne rendez-vous, d'abord vous pouvez la signer en ligne, et c'est très important de la signer, de la faire signer. Parce que c'est aussi parce que ce texte sera bien signé et soutenu que le président François Hollande, qui a pris ces engagements-là, qui en parle déjà, il en parlait au Grenelle de l'environnement l'année dernière, de l'importance d'avoir une déclaration à Paris est forte, mais c'est aussi parce qu'on la portera nous tous qu'il aura envie de la porter encore plus fortement, évidemment, au moment de la COP21. Donc rendez-vous le 2 novembre.
En 1975. À Soulac, en Gironde. Et
voilà. Mais ce que. On va demander à l'équipe. Catherine, j'aimerais bien qu'on envoie le lien à tous les participants aujourd'hui. Comme ça, vous avez juste à cliquer, tac, si vous êtes d'accord, bien évidemment, de le signer. Il y a plusieurs appels. Il y a aussi un appel du GRES sur la solidarité numérique qui a été sorti la semaine dernière. Je vous encourage aussi à le signer. Donc, ces deux rapports. On va en parler. Enfin, un rapport et cette déclaration, ce texte important. Je crois que c'est une actualité forte et c'est un premier geste vraiment, je crois, très utile pour donner toute cette dimension à la COP. Benoît Thiolin est spécialiste d'innovation numérique. Je pense que vous le connaissez tous. À l'origine d'une vraie démarche, d'une réflexion sur ce changement de civilisation. La NetSquad, désir d'avenir, des implications entre la politique, une activité de chef chef d'entreprise, beaucoup de voyages internationaux, une vision. Pour certains, ça a été aussi une vraie analyse, compréhension de ce qu'a fait la campagne Obama. Cette logique de ce que notre ami Henri Verdi appelle la multitude. C'est quelqu'un qui vit profondément ces sujets-là, qui les porte, et aussi bien sur un plan national qu'international. C'est aujourd'hui un rapport, je crois, qui est vraiment différent. Il a été remis il y a quelques temps, pas très longtemps, le 18 juin, à Manuel Valls. Et il y a 70 propositions. On va en parler un peu aujourd'hui, peut-être pas de tous, mais vraiment de cette transformation. Et moi, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est à la lecture des deux rapports, je me suis dit... Est-ce que l'équipe autour de Corinne, vous avez suffisamment parlé d'une civilisation numérique ? Et est-ce que ce rapport prend en compte à la fois ces réalités de limites environnementales, le temps du monde fini commence, tout ça, enfin, il est déjà bien fini. Donc c'est un peu l'idée aujourd'hui, donc non pas de faire une confrontation, mais de voir où sont des points de convergence. Parce que derrière ces rapports se cachent aussi des écosystèmes humains, d'organisation. Et l'enjeu aujourd'hui n'est plus de dire, et notamment avec la COP, est-ce qu'on est quelques-uns à changer le monde et quelques-uns à avoir raison pour les autres, mais plutôt comment des populations déjà fédérées autour de projets peuvent elles-mêmes s'élargir, passer à la massification. Et ça veut dire que chacun doit faire un petit pas en avant. Ou un grand pas en avant, comme disait M. Boumplika il y a quelques années.
Quantité totale.
Oui, mais je trouve qu'il avait raison, d'ailleurs. J'ai cru pendant longtemps que c'était une connerie de dire que l'Algérie est au bord du gouffre, faisant un grand pas en avant. Et finalement, maintenant qu'on est au bord du gouffre, finalement, on a vraiment un très grand pas à faire tous en avant. Effectivement, c'est des questions aussi culturelles d'être capable de se parler, des questions de vocabulaire. Alors, Corinne, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu entends par « nouveau monde » ?
Bonjour, d'abord, merci de m'avoir invité. Je suis ravie de débattre avec Benoît Thiolin parce que dans ce rapport sur l'économie du nouveau monde, on a défini comme étant en fait le mariage de l'environnemental et du digital. Alors, c'est quoi cette économie du nouveau monde ? Nous l'avons définie. Quand je dis nous, c'est un groupe de travail. On est une trentaine à travailler. Dans ce groupe, il y avait des représentants du monde du numérique, notamment Gilles Babinet, mais aussi Benjamin Saint de WeShare et quelques autres. L'utilisation actuelle des nous l'avons défini comme étant un monde ni fossile ni fissile, connecté, territorialisé et dans lequel le bien-être et l'humain reviennent au centre du débat.
Si nous voulons atteindre l'objectif.
Alors, chaque mot a évidemment son sens, hein, mais on voit bien que le connecté est au même niveau, si je puis dire, que la contrainte.
En effet, celui de la biodiversité, celui sur lequel on voit.
D'une certaine manière, la chance, parce que c'est une chance de se transformer. Lié au changement complet de modèle énergétique, lequel entraîne un changement complet du modèle économique, très bien analysé, etc.
L'ensemble de ces éléments avec
alors, ces propositions
très importantes. Alors, évidemment, c'est du nombre.
Lisez ces rapports. Je crois que c'est vraiment important parce qu'on.
Et dont on voit, bien entendu.
On passe. Il y a beaucoup de choses qui sortent en ce moment, mais on passe beaucoup de temps dans les digests des rapports. Probablement, ce qui fait les clés de la transformation, qui sont souvent les signaux faibles, sont un peu presque entre les lignes. Donc, je crois que ça vaut vraiment le coup de prendre le temps sur ces deux rapports. Mais quelles sont les principales propositions et peut-être celle à laquelle tu tiens le plus.
Mais c'est aussi alors, celle que les États-Unis.
On a fait ce rapport en se disant qu'il fallait arrêter d'attendre tout l'État. C'est pas très original ce que je suis en train de dire. Mais pour un rapport remis à un ministre, c'est quand même assez original. Autrement dit, nous avons réfléchi catégorie par catégorie.
Dans le même temps, la
et on a réfléchi à un plan d'action. S'adapte. Pour les entreprises, pour les collectivités locales, pour les citoyens, pour les médias et pour l'État.
Du territoire
et donc chacun a son paquet, si je puis dire, son paquet de propositions, étant entendu que c'est 20-80, c'est-à-dire 20 pour l'État, 80 pour les autres, globalement.
De l'ensemble de ces espèces par des espèces
les propositions, en fait, elles s'orientent autour de 5 mesures structurelles et 5 révolutions. Alors, je parle, vous en énumérez 10, c'est beaucoup trop long, mais disons qu'il y a quelques points très forts. Le premier, et tu me demandes ce à quoi je tiens le plus, c'est peut-être cela. C'est le constat que la création, l'innovation chez nous, mais je ne sais pas si vous partagez ce point de vue, se heurte, et puis si c'est vrai aussi pour le domaine du numérique, mais en tout cas ce que je dis, et je pense vrai, pour le domaine de tout ce qui est énergétique et au-delà, se heurte en fait à l'organisation du système entrepreneurial français. C'est-à-dire que nous avons quelques très grands champions, tant mieux, c'est très bien, sauf que ces très grands champions font les règles qui leur vont. Et ces règles-là, elles ne vont pas aux autres. Elles ne vont pas aux autres. Et donc, quand vous êtes un chercheur qui veut être une TPE pour devenir une PME, pour devenir une ETI, eh bien, vous avez toutes les difficultés du monde. Quand vous avez un matériel innovant, par exemple, dans le domaine, de la construction, que vous allez chez nos amis du CSTB, eh ben, si vous êtes une PME, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de problèmes. Parce que ça coûte très cher, parce que les règles vont changer au fur et à mesure que vous allez avancer, etc. Donc on s'est dit, il faut que ça, ça change. Comment est-ce que ça change ? Eh bien, en passant un système, tu as employé le mot de massification, c'est-à-dire un changement de rapport de force. Il faut absolument que ce que nous avons appelé les arbres qui poussent, c'est-à-dire l'économie du nouveau monde, par rapport aux arbres qui tombent, puissent être organisées et avoir réellement un pouvoir d'influence sur les règles qui sont mises en place. Non pas que nous soyons des fanatiques de la législation, mais enfin, notre pays est ce qu'il est, donc on joue avec les règles du jeu, même si, au passage, on s'est fait plaisir en proposant un certain nombre de changements dans la manière de concevoir la réglementation et la législation. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails. Et donc, nous avons proposé la création d'un mouvement des entreprises de la nouvelle économie,
se pose à chaque fois,
le MEN, qui a vu une première mesure d'application au mois de juillet avec la création d'une association de préfiguration et qui sera présentée très officiellement le 23 octobre.
Mais aussi pour nos hôpitaux,
pour ceux que ça intéresse, c'est 100 boulevard Pérère, c'est dans l'amphi de Fédérec, qui est un des membres de cette organisation, étant entendu qu'un certain nombre de fédérations ont adhéré, donc ça veut dire beaucoup d'entreprises derrière. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que ça va de la boîte unipersonnelle, quasiment, de l'URL à de véritables ETI. Voilà. Donc ça me paraît très important parce que ça tire le reste.
En attendant,
si on arrive à faire ça, alors on peut repenser
un certain nombre de règles.
On peut repenser un certain nombre de comportements, de manières de faire, etc. Deux autres points qui nous ont paru très importants, la question des externalités, qui est un fil conducteur de tout le rapport,
et qui fait que
parce que nous avons analysé les difficultés dans lesquelles nous sommes par une absence de vérité des prix. Par rapport au sujet que nous défendons.
Mais c'est aussi ceux qui vont.
Nous sommes dans un système dans lequel moins vous payez cher, plus c'est mauvais pour votre santé, plus c'est mauvais pour l'environnement, plus c'est mauvais pour le social. C'est-à-dire qu'on est complètement à rebours de ce qu'on pourrait faire. Donc, comment est-ce qu'on réintègre la question des externalités ? Donc, on a pris le problème, je dirais, tout au long.
On voit bien qu'on commence à arriver.
En commençant par la comptabilité publique.
Et on voit bien aussi que.
Parce que c'est vrai pour les choix publics, mais c'est vrai pour la comptabilité d'entreprise. Là, on rejoint la RSE, on rejoint de l'extra-financier, mais pas seulement.
Non seulement on le voit sur.
Ensuite, on l'a utilisé pour la fiscalité et on l'a utilisé pour le financement avec la proposition de crédits d'externalité qui sont en fait des financements gagés sur des économies externes réalisées. Je ne rentre pas dans les détails parce que je n'ai pas trop le temps. Mais voilà, c'est des choses qui nous, qui nous paraissent extrêmement importantes. Et puis je dirais globalement tout le rapport. Dernier point aussi qui nous rapproche de l'ordre numérique. On a été très intéressés par la French Tech. On a trouvé que c'était une super idée. Nous avons auditionné du reste les personnes qui ont mis en place la French Tech. Et donc nous avons proposé dans le rapport que soit créer une marque.
Et qui va dépendre,
nous avons proposé d'appeler France Terre d'Avenir, mais on pourrait l'appeler moyenne, comme on veut, peu importe. L'idée, c'est de pouvoir exporter sous un label commun
sur tous ces domaines, tout ce qui constitue
cette nouvelle économie.
Total, qui seront liés d'à peu près de la même façon. Et une courbe qui va aussi entre janvier et juillet, puis retour. en octobre et décembre. Et en fait, avoir un optimum de survie aux alentours du mois de mai et puis du mois de septembre.
De la part du ministère de l'écologie.
Et avec des effets qui vont être majeurs.
Ça peut changer.
Ça peut peut-être changer. Je crois que le ministère de l'économie est plus intéressé que le ministère de l'écologie. C'est un peu dommage, mais enfin, c'est comme ça. Mais par contre, tous les acteurs. Qui ont travaillé sur le rapport et qui maintenant voilà se retrouvent au stade du Maine avec beaucoup d'autres, sont décidés à mettre en œuvre tout ce qu'ils peuvent mettre en œuvre du rapport et qui dépend de. Et il y a beaucoup de choses que l'on peut faire et que nous avons proposées.
Merci, effectivement, tout ça est une question de transversalité. Alors déjà, Benoît, sur ta vision de la dimension française, Corinne a dit qu'il y avait une spécificité. Je ne sais plus qui a dit la semaine dernière, je crois que c'est Chambers qui a dit que la prochaine Silicon Valley serait en France, ou elle était déjà en France. Bon, tout ça est aussi lié à des positions de communication. Toi, quelle est ta vision, effectivement, en réponse de la spécificité française par rapport à ça, et où on en est on s'est rencontrés, je ne sais plus, il y a une dizaine d'années maintenant. Tu parlais moins d'écologie qu'aujourd'hui, et j'ai l'impression que le monde du numérique français, dont Gilles Babinet notamment, ou Daniel Kaplan, enfin des gens comme ça qui sont des leaders comme toi, ou Henri Verdier, donc ce que je citais tout à l'heure, parlent beaucoup plus aujourd'hui. Est-ce que l'intégration se fait vraiment? Mais déjà, sur la partie française spécifique.
Alors, merci de l'invitation, ravi de débattre avec vous. Peut-être revenir un tout petit peu sur l'optimisme dont tu parlais, en fait. Parce qu'on est vraiment dans une situation qui est assez angoissante.
Ces interactions, comment on avance.
La planète ne va pas bien, on continue de faire des pas en avant face au gouffre. Et pourtant, dans les deux rapports, je pense qu'effectivement, tu as eu raison de le noter, souffre quand même une espèce de vent d'optimisme. Moi, je pense que ça s'explique par le fait que, et c'est là, à mon avis, je parle de ça parce que je pense qu'il y a une articulation entre le numérique et l'écologie qui est à trouver et qui est particulièrement féconde. Je crois que dans le numérique, ce qui rend optimiste, c'est le fait que nous sommes au début, au commencement d'une transformation absolument sans précédent du monde. Et pour toute personne qui ne se satisfait pas complètement du monde tel qu'il est aujourd'hui, la question écologique montre que ça ne va pas du tout. Eh bien, le fait que tout d'un coup, on sente que le numérique est en train d'être un levier absolument gigantesque de transformation du monde est un levier, est une opportunité pour le changer. C'est ça qui me rend optimiste. C'est que je sens que tout d'un coup, on est au début d'une redistribution gigantesque des cartes. Mais évidemment, ça doit se faire. C'est pour ça que je pense que la rencontre des deux, de ce qu'on pourrait appeler d'ailleurs, moi ce que je fais souvent, je fais dans la préface que tu citais, deux transitions au fond que l'humanité... à laquelle l'humanité doit faire face, c'est la transition écologique et c'est la transition numérique. Et les deux, d'ailleurs, se répondent de manière presque philosophique. L'écologie, c'est, au fond, un bouleversement dans notre rapport à la nature, et le numérique, je crois, c'est profondément une révolution et une transformation dans notre rapport à la connaissance et au savoir, et donc à la culture. Et je pense que ces deux transformations, ces deux transitions, en réalité, doivent s'articuler. Alors, est-ce qu'elles le font bien aujourd'hui? Il faut avoir une vision un peu équilibrée. Et du coup, je commence par la face nord de l'Everest. C'est vrai, parce qu'il y a des rapports qui s'accumulent. Il y en a eu encore un, je croyais, il y a la semaine dernière ou il y a 15 jours, qui montrent que l'empreinte écologique de la révolution numérique actuelle équivalait à peu près, je crois, au transport aérien. Donc c'est dire, et ça augmente. Voilà. Il y a un sujet, évidemment, d'empreinte écologique terrible, en gros d'un Internet très carboné aujourd'hui, qui pose problème. Il y a des initiatives et il y a déjà des débuts de réponse, on va dire technologiques dans le hardware. Vous savez que là, c'est inauguré à Strasbourg il n'y a pas très longtemps, le premier data center écologique, un des plus écologiques du monde. Bon, donc il y a des progrès dans le hardware qui se font. Mais je vous dirais, il y a aussi une discussion de plus en plus dans le monde, cette fois-ci du software, donc dans les couches hautes, dans la production du code. Il y a une vraie réflexion aujourd'hui, il commence à y avoir ces débats, il faut les pousser, sur le fait qu'on fasse du code durable. C'est-à-dire, en gros, peu carboné. Et puis qu'il y ait des usages aussi qui soient diffusés. Quand on fait, qu'on utilise Google comme un correcteur orthographique ou pour trouver une adresse, bah, au fond, c'est pas quelque chose de très durable comme usage. Et donc, vous voyez, c'est à tous les niveaux en réalité qu'il va falloir faire évoluer la transition numérique. Dans le hardware, dans le software et aussi dans les usages pour faire en sorte qu'on verdisse davantage la révolution numérique. Cela étant dit, Il ne faudrait pas que l'aspect carboné de la transformation numérique aujourd'hui, qui à mon avis sont dus quand même à une transition, nous fasse méconnaître en réalité le caractère profondément en accord avec l'écologie du numérique. Et là, je pense en réalité à tout ce que le numérique peut véhiculer en termes de
alors comment
mise
on a
en réseau,
réalisé cette année,
de circuits courts. Quand vous regardez l'ensemble des transformations de l'économie aujourd'hui, la vague de désintermédiation et de remédiation se fait sur les territoires, de pair à pair, plutôt sur des circuits courts. Et c'est ça qui est profondément intéressant aujourd'hui dans la transition numérique, c'est qu'elle construit une nouvelle économie, une économie qui se veut plus territorialisée, qui veut rapprocher au rang l'été les producteurs des consommateurs, qui va être capable aussi d'ailleurs de faire de la traçabilité beaucoup plus forte, parce que le numérique laisse des traces et des empreintes absolument partout. Donc il y a tout ce mouvement-là en réalité qui est là pour le coup, et en réalité un numérique qui outille la transition écologique. Et face à ça, tout ça, moi j'ai toujours tendance à dire qu'on a intérêt à politiser, à cliver. Ça veut dire que face à ça, en réalité, il n'y a pas une transition numérique. Il y en a plusieurs qui sont possibles. Il y a aujourd'hui plusieurs modèles de la transformation. À la Silicon Valley, il y a des débats aujourd'hui. Tout le monde n'est pas absolument fanatique de la concentration, par exemple, entre quelques grandes plateformes qui se jouent aujourd'hui. Tout le monde n'est pas forcément fanatique, et d'ailleurs, ça va même à l'inverse de ce que les pères fondateurs d'Internet avaient voulu, de la reverticalisation du web aujourd'hui et de sa recentralisation, alors que par essence, Internet était un réseau hyper distribué et hyper égalitaire, et qu'aujourd'hui il y a une menace sur la recentralisation et sur l'hyper égalité qu'on peut appeler autrement, qui s'appelle la neutralité du net aujourd'hui. C'est d'ailleurs des choses sur lesquelles le Conseil a pris énormément position. Ce que je veux dire par là, c'est que donc il y a aujourd'hui à penser le numérique pour qu'il soit vraiment au service de la transition écologique, et qu'on ait une vision politique qui nous permet de faire des choix, parce qu'aujourd'hui, en fait, le numérique peut nous dessiner différents types de mondes. Et donc moi, c'est ça que je veux essayer de faire passer comme message le plus possible. Encore une fois, c'est que le numérique en soi, il n'y a pas de déterminisme technologique. On doit avoir une maîtrise de nos choix sur ces évolutions. Elles peuvent absolument, et ça c'est une conviction forte, servir énormément la transition écologique, mais encore faut-il faire des choix politiques, visionnaires sur ces enjeux.
Merci, j'aurais quand même tu réponds ici sur la France. Mais pour compléter, tu n'as pas parlé de temporalité, mais je me suis amusé à faire un parallèle il n'y a pas longtemps, parce que les 5 degrés qui nous séparent de la dernière glaciation il y a 20 000 ans, quand il y avait 3 km de glace là où on est, là, dans ce sens-là. En réalité, la bascule de température des 5 degrés s'est faite sur 3000 ans. Et c'est à peu près, il a fallu 3000 ans pour inventer que l'écriture transforme le monde, 300 ans avec l'imprimerie et 30 ans avec le numérique. Et on a des parallèles, parce que la vraie bascule est quand même 92. Et c'est aussi sur des trentaines d'années. Il y a des vrais. Moi, je suis convaincu, et j'aime bien relire ce que raconte Michel Serres dans La Métamorphose, qui est effectivement ce croisement-là. Qui effectivement, là on est sur 30 ans, mais qui me fait penser qu'on est à un point de départ. Sur l'aspect French Touch, French Tech,
je pense qu'il y a. Alors, ça m'amène à moi ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était que je pense qu'il y a plusieurs révolutions numériques possibles. Il y a plusieurs mondes que dessine la transformation numérique. Là-dedans, je pense qu'il y a aujourd'hui une opposition et une vision, je dirais, plus européenne. Française, elle y contribue très largement, mais je vous dirais que aujourd'hui, alors on se focalise énormément, et je vais vous donner des exemples concrets. On se focalise énormément aujourd'hui sur les GAFA, moi je déteste cette terminologie parce que je la trouve très discriminante, mais disons, on se focalise sur les grandes plateformes, un Google, un Amazon, un Facebook ou autre. C'est vrai que dans cette première vague, on a, nous Européens, pas été très présents, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais si vous regardez par exemple cette deuxième vague, un Blablacar par exemple. Un Blablacar, c'est hyper intéressant parce que je pense que pour le coup, ça n'aurait pas été inventé aux États-Unis. Pour une raison simple, c'est que c'est quelque chose qui est dans l'économie du partage, qui est plutôt dans un environnement où on a une densité très très forte, où on sait très vite qu'on n'a pas une abondance de réserves naturelles. Bref, c'est quelque chose de très européen au fond comme philosophie. Et donc, toute cette vague-là, de l'économie du partage, de l'économie contributive, de l'économie du pair à pair, à mon avis, sont des choses qui sont beaucoup plus dans la philosophie et dans les pratiques et dans les usages des Français et des Européens que des Américains. Et donc, je pense que, effectivement, il ne faut pas avoir une vision défaitiste. C'est pas parce qu'on a effectivement été disons, on a perdu cette première vague, où tant que là, on n'en a pas été très fortement acteur, que dans la deuxième vague, qui d'ailleurs n'est pas que B2C, mais qui est aussi très fortement B2B, et dans lequel on rentre dans le dur de la transformation de nos économies, là, pour le coup, je pense que les Européens ont des valeurs qui se ressentent dans les projets économiques qui vont émerger.
Et peut-être l'expérience du multiculturel, tu en parlais tout à l'heure, parce qu'on a déjà, on est en train de créer une organisation multiculturelle, multilangue, à 28, et donc l'expérience de ces dernières années, j'en suis convaincu, est absolument extraordinaire, et notamment la réconciliation allemande, qui est un joli symbole de deux sociétés, surtout deux cultures, et qui est complètement dans la complexité du monde d'aujourd'hui. Il y a une dimension multi-acteurs qui joue, évidemment, au Comité 21, nous on fait que ça, merci Placide, depuis plus de 20 ans. Quelle vision tu as dans cette transformation économique? On sent qu'il y a des choses qui bougent très fortement en ce moment. La ville de Medellín produit de l'électricité à partir de renouvelables et en vend à d'autres villes et à d'autres pays, donc fait du commerce, ça devient une entreprise. Des entreprises non-profit comme le groupe SOS aujourd'hui avec plus de 15 000 salariés et 1 milliard de chiffre d'affaires. Et cette ubérisation des choses. Quelle vision tu as par rapport à ça et quelles propositions, risques, freins, etc. Et avec la difficulté, évidemment, multigénérationnelle qui va avec.
Il y a 42 questions dans ta question. Donc c'est un peu difficile.
Non, mais c'est le multi-acteur. C'est la transformation du jeu d'acteur. Voilà.
Gilles, toute plaisanterie mise à part, et ta question est multi-question aussi. Moi, il y a quelque chose que je trouve assez fascinant, et c'est vrai que c'est ce qui a fait souffler le vent d'optimisme dans notre rapport. C'est les multiples réussites qu'on voit dès lors qu'on se donne la peine d'aller les regarder. Que ce soit, alors vous venez de citer Blablacar, on peut citer Airbnb, dans un autre domaine, on peut citer les toits de Figeac. La région Nord-Pas-de-Calais pour le master plan, on peut citer la commune de Montdidier pour l'autonomie énergétique, on peut citer, enfin voilà, je ne vais pas m'étendre, mais il y en a 150 et chaque fois, c'est des écosystèmes réussis, c'est-à-dire globalement, c'est territorial et là-dessus on se rejoint complètement. Ce sont des acteurs territoriaux qui ont décidé de se mettre ensemble et on le voit aussi du reste avec le financement, le succès du crowdfunding. Notamment pour financer des projets locaux, est absolument formidable. Le seul dommage chez nous, c'est que sur le plan énergétique, on ne peut pas faire ce qu'on voudrait faire. Mais il est tout à fait clair que si on pouvait, ce serait un développement exponentiel, formidable. Parce qu'il y a énergie partagée, par exemple en Alsace, RCSOL, des gens comme ça, qui ont monté des coopératives d'habitants ou des coopératives des sites. Et qui finance des opérations locales, ça fait du développement économique, ça fait du vivre ensemble, ça fait de l'activité, des emplois, enfin ça fait tous les avantages. Alors ça, on voit que ça se développe et aux États-Unis aussi. Moi, j'étais très intéressée par un bouquin que vous avez peut-être lu qui s'appelle Made in Local. De Michael Schumann, où il explique précisément qu'aux États-Unis, on assiste aussi à un mouvement de relocalisation très important, allant même jusqu'à la presse, par exemple, avec des rachats de journaux papier par je ne sais plus quel grand magnat de la presse, parce que c'est là que ça se passe. Voilà, donc mon questionnement, c'est les États, ça devient quoi là-dedans? Qui est en train, je crois, de que le vrai sujet, il est là-dessus. On a en fait deux visions qui sont aujourd'hui en choc titanesque, si je puis dire. Quand on regarde la situation géopolitique du monde, on voit bien que c'est les États. On ne peut pas dire que c'est très brillant, dire ce qu'ils font.
La COP21, ce sont les États qui négocient.
Merci Jean-François.
Avec plus ou moins des situations d'échec.
Merci d'avoir balayé très, très largement. Je vous propose
et puis on
de
voit
de
l'autre côté, d'autres organisations à côté.
La présentation de nos amis de
certaines institutionnelles, je pense aux collectivités locales.
Et ensuite,
mais d'autres qui peuvent être éphémères, durables,
de questions-réponses.
Et qui mettent donc, ensemble des gens avec des résultats tout à fait probants. Donc ma réflexion à moi, et j'ai pas je ne sais pas. Avec, je regarde, j'essaie de réfléchir. C'est quelle gouvernance
Sahara,
que ça
c'est de voir si
c'est-à-dire, est-ce que on va vers une reconstruction bottom-up, c'est-à-dire de la reconstruction d'organisations plus larges à partir d'écosystèmes
ou des phénomènes reliés, comme par exemple
Et ça, ça peut se concevoir
avec
notamment au niveau européen,
éléments de
région et Europe,
santé,
mais alors les États,
en général, il y a déjà eu des études sur.
Et on voit pour le moment, ils ne sont pas prêts à se laisser faire, puisqu'on est plutôt reparti vers une Europe des États plutôt qu'une Europe esprit communautaire, quand on regarde les choses comme elles sont. Ou bien, est-ce que du fait de la dureté du monde, du fait de conflits potentiels ou malheureusement réels, est-ce que ce n'est pas les États qui vont prendre la main et réduire en quelque sorte ces capacités de transformation qui sont aujourd'hui au sein de ce qu'on appelle la société civile. Voilà, j'ai pas la réponse. Moi, évidemment, j'aimerais que ce soit la première solution, mais c'est pas moi qui décide. Et je pense que c'est personne.
Deuxième sujet,
c'est pas une personne.
La deuxième qui l'a.
Il y a aussi une espèce de train dans lequel on est rentré et qui peut dépasser ces auteurs caniculaires.
Benoît, sur ces questions de gouvernance, et alors je ne sais pas si c'est même bottom-up ou horizontalité, où on en est, est-ce qu'on va pouvoir vraiment accélérer ? Parce que quand même, l'ambition du développement durable, et nous tous qui défendons les questions numériques, etc., depuis des années, c'est quand même une vraie horizontalité où chacun a sa part de coproduction en permanence, et plus seulement sur des systèmes de délégation de pouvoir.
Alors, d'abord, quand même, le mouvement de désintermédiation, de reconstruction par le bas, dans lequel c'est la société quand même civile qui a le plus la main, continue d'être une dynamique extrêmement forte, même très brutale. Et d'ailleurs, elle va jusqu'à saper en partie les fondements même des États, ce qui fait d'ailleurs que ça provoque des réactions de leur part ou des réactions angoissées des populations qui se retournent vers leurs États un peu. Moins ils ont la main et moins ils ont de pouvoir, plus on se tourne vers eux de manière au fond crispée. Mais la tendance est là et d'ailleurs elle pose des tas de questions. Je veux dire, quand vous regardez. Quand vous regardez dans l'hôtellerie collaborative ou dans le transport collaboratif ou autre, puisque c'est deux sujets qui ont fait un peu la une de l'actualité ces derniers mois, on voit à la fois des choses géniales. C'est-à-dire que ça a permis de l'innovation de services, d'usage, de modèles d'affaires. Ça permet aussi à des gens qui n'avaient pas forcément de boulot d'en trouver. Ça permet aux gens de se rapprocher et notamment de se rendre des services entre eux en échappant à une régulation économique par le marché. Ça, je pense que c'est quand même extrêmement important. Dans l'hôtellerie collaborative, avant Airbnb, quelque chose de presque plus intéressant à mon avis, c'est Couchsurfing. Et Couchsurfing, c'est ce qui a quand même permis de la création, je crois, en volume de l'équivalent du groupe Accor en quelques années. Donc c'est près de 100 millions de lits qui sont offerts. Et ça le faisait hors du système marchand en adressant des populations qui n'avaient pas accès à l'hôtellerie. Donc là, on est typiquement dans ce que le numérique fait extrêmement bien et de manière hyper positive, c'est qu'il va permettre en réalité de créer des micro-régulations sur des marchés qui économiquement n'étaient pas solvables, ce qu'on pourrait appeler des espèces de marchés non marchands. Et ça c'est extrêmement intéressant. En revanche, si vous regardez Airbnb, qui est à la fois qui est bien sûr extrêmement intéressant, il y a aussi des tendances qui peuvent questionner. Parce que vous avez l'hôtellerie qui n'a pas beaucoup innové, qui du coup se fait disrupter par un nouvel acteur qui est très agile, qui fait des superbes interfaces, qui modifie les modèles d'affaires de l'hôtellerie, mais qui en même temps, ça franchit toute régulation. Et on n'est pas non plus, et surtout quand on est dans le domaine, quand on est favorable à la transition écologique, on a évidemment besoin de réglementation, on a besoin évidemment d'encadrement, tout ce que vous avez dit tout à l'heure, et que je partage absolument à 200%, sur les externalités qui ne sont pas intégrées, négative, c'est typiquement aussi un manque de régulation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la comptabilité, les prix, etc., devraient être beaucoup plus proches de cette réalité-là. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on a besoin d'un encadrement là-dessus et de régulation. Et donc, il faut faire attention justement à ce que le numérique qui crée sur l'hôtellerie, c'est vraiment très flagrant. C'est un nouveau type de service. Il y a du bien-être social et du progrès qui sont faits. Ça permet à des gens de pouvoir faire de l'hôtel qui n'en avaient pas les moyens. Mais ça va aussi permettre tout d'un coup de disrupter un secteur, mais en s'affranchissement de tout type de régulation. Un jour, vous allez avoir un immeuble à Paris ou à Rome qui va cramer, parce qu'on se rendra compte que c'est un immeuble résidentiel dans lequel il n'y aura eu que des touristes, Et on se rendra compte qu'effectivement, bah, il n'y avait pas les contraintes d'extincteurs, de double escalier, etc. Et on va se dire, ah bah oui, c'était normal finalement, c'est un truc qui était pour les hôtels, pas pour les résidences. Et oui, et les résidences n'ont pas été pensées pour être transformées en hôtellerie collaborative. Je veux dire, et on pourrait c'est exactement la même chose sur Uber.
Et le droit du travail.
Et le droit du travail et la fiscalité. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut faire attention. C'est pour ça que quand je dis qu'il y a plusieurs mondes numériques possibles, cette transformation, elle peut être à la fois géniale, Couchsurfing, et Airbnb. Le modèle, à mon avis, n'est pas durable. Hein. Quand on est une plateforme, qu'on ne paye pas d'impôts, qu'on s'affranchit simplement de toute régulation, qu'elle soit écologique, qu'elle soit fiscale ou qu'elle soit sociale, bah, à la fin, en réalité, vous sciez, ce que j'explique moi souvent, lorsque vous captez une grosse valeur de l'économie contributive et que vous ne reversez rien à ceux qui a contribué à ce solde positif de l'économie contributive. En gros, quand vous financez ni les hôpitaux, ni la sécurité sociale, ni la santé, ni l'éducation, vous empêchez en réalité de faire en sorte que les gens puissent contribuer dans cette économie numérique. Donc voilà, moi, c'est ce que je veux simplement préciser là-dessus, c'est encore une fois, parce que ça me semble absolument majeur, on a besoin de faire des choix dans quel type de transition numérique on veut aller. Il y en a qui sont hyper positifs, qui vont outiller la transition écologique, et il y en a d'autres qui, en réalité, vont plutôt nous emmener dans un chemin inverse et qui, effectivement, posent des questions aux États qui sont extrêmement durs. Alors ensuite, sur le rôle des États, moi, je suis très partagé là-dessus. Je dirais, encore une fois, la tendance, elle est là, et c'est quand même plutôt à donner du pouvoir aux sociétés aujourd'hui. Mais vous avez des crispations. Et vous avez des crispations aussi parce qu'il y a une question d'éducation, à mon avis, qui doit être majeure. Aujourd'hui, on l'a tous constaté, je sais pas, on est tous sur Twitter, j'ai regardé là tout à l'heure, les médias sociaux, il y a 5 ans, c'était un paradis. On était entre nous, c'était super, on discutait entre geeks, entre spécialistes de ces sujets, etc. C'était très sympa. Ça a été, au fond, une espèce de plateforme du débat public, mais qui était très élitiste. Maintenant, vous avez quasiment 100% de la population sur un Facebook ou un peu moins sur un Twitter, mais vous en avez quand même une grande partie. Et ça contribue en fait à la dégradation du débat public. Il ne faut pas se le cacher. C'est-à-dire que quand tout d'un coup, vous désintermédiez la prise de parole médiatique, que tout le monde, au fond, vous leur tendez à tous un micro, à 30 ou 40 millions de Français. Mais à qui vous n'avez pas dit, attention, le micro qu'on vous tend, il vous permet de parler à tout le monde, à 3 milliards d'individus connectés. C'est ça, aujourd'hui, l'humanité connectée, c'est 3 milliards d'individus. Mais quand vous leur donnez, vous leur tendez ce micro, mais que vous ne leur avez pas appris vous en servir, évidemment que ça peut poser des problèmes. Et que du coup, on s'en rend tous compte qu'il y a des dérives, que le débat public est plus difficile aujourd'hui à maîtriser qu'il y a 10 ans. Moi, je trouve au global que c'est un paradoxe. On n'a aujourd'hui jamais eu autant d'outils pour pouvoir faire participer la population à des débats, des outils qui sont sophistiqués, qui sont très intelligents. Et au global, on ne peut pas ne pas remarquer qu'il y a une dégradation globale de la qualité du débat public. C'est un exemple parmi plein. Mais en réalité, on doit se préoccuper de ça. Et ça veut dire que ça doit faire rentrer, à mon avis, les questions d'humanité numérique, notamment à l'école. On doit apprendre aux gens à servir tous ces nouveaux outils. On doit leur apprendre à se méfier aussi d'un certain nombre de potentiels de manipulation et d'aliénation dans le monde numérique. Toutes ces choses-là doivent être enseignées à l'école.
Effectivement, j'ai une fille qui rentre en sixième. La première chose que lui a dit le principal en les recevant tous, de toute façon, les portables sont interdits. Dans des collèges, des pays, etc., où on essaye plutôt d'utiliser les smartphones vers l'aspect éducatif, et moi, je pensais qu'on avancerait beaucoup plus vite parce que ça fait quand même quelques années qu'on parle d'éducation critique aux médias et à l'école. Et effectivement, on a une vraie difficulté. Pour rebasculer sur, avant de passer aux questions de la salle, la dimension éducative dans tout ça, parce que c'est effectivement, il y a le portable, mais moi, ça me frappe aussi quand des gamins arrivent au collège, qu'on leur demande d'élire leurs représentants du personnel. J'ai l'impression d'avoir un modèle de la 4e République. On ne les forme pas à la démocratie, on ne leur explique pas quelles vont être leurs responsabilités. Il n'y a pas de formation. Et on met des délégués de personnel qui sont nommés comme des premiers ministres de la 3e et de la 4e République. Est-ce que vous avez apporté ces questions éducatives? Parce qu'effectivement, la question, c'est celle des capacités.
Qui recouvre un historique un peu plus large.
Alors, on a parlé un peu de formation dans notre rapport, parce qu'on s'est bien entendu posé la question de l'emploi, dans la mesure où on a pensé que, notamment en France, l'ampleur du chômage était en fait un élément tétanisant pour faire un certain nombre de choses. Parce que, effectivement,
cela conduit à maintenir ou à favoriser des rentes
pour des raisons de
en espérant que ces rentes maintiennent les emplois qui vont avec, au détriment d'autres activités économiques qui pourraient être beaucoup plus porteuses d'emplois, sauf qu'un risque à prendre. En fait, on ne voit pas que le risque, on le prend en faisant ce qu'on fait. C'est un détail. Bon, donc ça, on a travaillé sur la formation, sur les passerelles de formation, etc. Pas tellement sur l'éducation, parce que ce n'était pas directement... directement l'objet du rapport, où ça aurait été beaucoup plus long et on ne voulait pas être trop long non plus. Mais je partage ton point de vue sur le fait que c'est un élément absolument majeur. Qu'on a des enfants qui naissent aujourd'hui avec à 3 ans, ils savent se servir d'un smartphone, d'une tablette et de tout ce qu'on veut. Mais ce n'est pas parce que techniquement ils savent appuyer au sens intellectuel du terme. Et ça fait bien longtemps, avant même qu'on passe à la civilisation numérique, on est passé à la civilisation de l'image, c'est-à-dire il y a 30 ou 40 ans.
Et on a repéré un certain nombre.
On n'a pas été capable à ce moment-là déjà de faire la révolution éducative qui impliquait le passage du livre à l'image. C'est-à-dire que dans ma génération, on nous en
a les corrélations étaient significatives, donc dans lesquelles l'évolution,
donc avec les explications de texte qui allaient avec le livre, donc l'esprit critique qui allait avec le livre.
Traduisait, expliquait en tout cas.
C'est-à-dire que ça passe par la tête avant de passer par l'estomac,
de l'asthme
ou par le cœur.
Pour
quand c'est l'image, c'est le contraire.
Quand même aussi un certain nombre
ça
de,
passe d'abord par l'émotion et ensuite
significative et tout ça sans contrôler aucun
si
facteur.
On n'est pas capable d'apprendre aux gens
on a
maîtriser l'émotion
le comptage Pollini qui
et à être critique permettrait
d'avoir des données plus
suggérées
fines et d'avoir
avec les risques de manipulation
déjà là,
qui peuvent
déjà
aller
là,
avec, c'est-à-dire apprendre des explications d'image comme on a appris les explications de texte.
L'ozone.
Bien, il
on
n'a
rien trouvé de significatif
à l'étape suivante,
aujourd'hui, mais on peut penser que l'ozone, alors là, pour le coup,
il vient de là. C'est-à-dire qu'on a quand même, c'est pas 20 ans de retard, c'est 40 ans.
On a bien intérêt à contrôler certains facteurs comme la chaleur associée.
Là-dessus, il faut voir que notre éducation nationale est quand même.
Là aussi, un certain nombre de villes où déjà.
Moi, j'ai plus d'enfants à l'école, mais des petits-enfants. Donc je vois ce qu'ils,
avéré,
ce qu'ils font.
Avec même des niveaux, quand on regarde
ça,
un niveau.
Absolument incroyable.
Ce coefficient de corrélation.
Peut-être, j'aimerais bien que tu réagisses aussi sur l'éducation. Alors, notamment, moi, ce qui marque en ce moment, c'est la génération Minecraft. Ces gamins qui sont à la fois en capacité de se projeter, se construire des univers d'un niveau peut-être de ce qu'était un élève d'architecture de troisième année il n'y a encore pas si longtemps, et en même temps dans des à la fois de la délocalisation. Je m'explique, un autre gamin qui jouait sur Minecraft dit je me suis fait un nouvel ami, on aime les mêmes jeux, on s'adore, machin, etc. Et voilà. Et je lui dis mais il habite où? Ah, moi je sais pas. Mais tu as joué 6 ou 7 heures aujourd'hui avec lui, tu sais pas où il habite? Non, mais bon, il est super, on parle toute la journée, c'est bien, on joue ensemble, etc. Puis avec des vrais jeux coopératifs, enfin, où il y a dans l'univers du gaming tout ce qui nous semble manquer à l'école aujourd'hui, mais en même temps une délocalisation complète. Et pour lui, effectivement, le monde est devenu l'Internet, donc il n'y a pas de monde virtuel, tout ça, c'est le même univers. Quelle vision, toi, tu as de cet aspect éducatif? Et est-ce que cette génération-là, pour toi, dans l'État, est en capacité d'être à 20 ans un actif coopératif de la société?
Oui, ça vaut la peine. Oui, mais
alors, d'abord, moi, j'ai changé d'avis sur le sujet. C'est-à-dire que quand il y a, et c'est important de le dire, ça m'arrive de me gourer. En l'occurrence, j'ai eu une intuition fausse. Il y a 10 ans, je pensais que les digital natives auraient un regard critique sur ces transitions, sur cette transformation numérique. Le fait est que
c'est facilement disponible.
Le fait est que ça n'est pas le cas, que toutes les études montrent le contraire, et que la génération spontanée du numérique, qui sont les enfants du numérique, ou digital natives, comme on dit, cette génération spontanée, en fait, n'est pas spontanément active, mais qu'elle est en réalité passive, c'est-à-dire que ça fabrique, le numérique fabrique des consommateurs passifs du numérique, qui évidemment utilisent parfaitement tous ces outils mieux que nous. En revanche, les outils, les utilisent sans distance, sans regard critique, et avec parfois des degrés d'aliénation qui sont vertigineux. Vous avez des études à peu près toutes les semaines qui sortent et qui vous disent toutes la même chose, c'est que les jeunes, alors ça peut être de 15 à 25 ans, les étudiants de 20 à 25, peu importe, dans tous les cas, c'est toujours un peu la même chose, c'est en gros, quelle est la vérité sur Internet? C'est la première page de Google. Vous posez la question comme vous voulez, mais en gros, ça dit toujours à peu près un peu ça. Et donc, c'est très, très inquiétant. C'est très inquiétant parce que ça veut donc dire que nous qui avons en tout cas ceux qui ne sont pas nés avec un smartphone dans les mains, nous, en fait, on a encore cette chance d'avoir été entre deux mondes. Moi, je pourrais raconter à mes petits-enfants que dans les médias traditionnels, quand je suis né, quand il y avait une publicité qui passait, on nous mettait un petit écran pour nous dire « Attention, ceci est une publicité ». Je pense que ça fera rire tout le monde dans 10 ans. Dans le truc qui s'appelait la télévision, quand on nous passait une publicité, on nous mettait avant « Attention, ceci est une publicité ». Mais parce que dans le monde numérique, c'est plus du tout comme ça. Google est encore très gentil et très éthique. Lorsque vous mettez, vous mettez des requêtes et que vous avez un résultat, vous avez marqué lien sponsorisé. C'est pas hyper net, mais enfin quand même. Enfin, si, c'est assez net, c'est pas en gros, mais quand même vous le voyez. Bon. Mais une fois que vous avez cliqué, qu'est-ce qui vous dit quelle est la source d'information? C'est une publicité, c'est une information déguisée, c'est... Vous avez tous les cas en fait possibles. Et ça, en fait, c'est un monde qui est très très différent de celui dans lequel on était. C'est un monde totalement désintermédié dans lequel, en réalité, il va falloir que vous fassiez des comparaisons de sources, que vous fassiez travailler en fait votre matière grise pour savoir face à quel type d'information vous êtes. Bon. Et vous imaginez bien que, avec la puissance des algorithmes, ce potentiel de manipulation, qui avait déjà été analysé d'ailleurs par des sociologues et des marketing, de la recherche en marketing dès les années 60 et 70, mais ce potentiel d'aliénation, en fait, il explose.
Merci beaucoup.
Imaginez demain. Bravo pour. Je sais pas, moi, vous êtes.
Pour cette étude,
je suis quelqu'un de peu éduqué, qui est donc aisément manipulable. Un algorithme va avoir des tas de données sur moi pour savoir qu'effectivement je le suis.
Ce type
voilà, alors, tout va voir. Bah, Benoît n'a pas eu son bac, était chômeur longue durée plusieurs. Voilà. Et bien, du coup, je vais taper chez Parum dans un moteur de recherche. Quel qu'il soit, dans un pharmacie en ligne ou autre, il va reconnaître qui je suis, il va se dire, oh là là, ce type-là est totalement manipulable, donc je vais lui vendre tel et tel type de produit. Est-ce que ce que je viens de vous décrire est quelque chose de la science-fiction cauchemardesque? Oui, mais est-ce que c'est pas du tout possible? Mais si, c'est totalement possible. Et donc, vous voyez quand même que le monde dans lequel on était, qui était un monde métier, avec tous les inconvénients qu'il peut avoir, avec quand même un certain nombre d'avantages, c'est que, démocratiquement, on pouvait dire, on va protéger les populations. Là, on est dans un monde totalement dans lequel, en fait, il faut donner l'autonomie aux gens. Il faut leur donner les capacités, en fait, de pouvoir se mouvoir dans ce monde dans lequel les potentiels de manipulation
d'animation sont quand même
décuplés, tout comme notre potentiel, en fait, de création, de production, de rapprochement aux autres, etc. Donc l'éducation, j'en reviens à ça, parce que c'est la question, l'éducation, elle est absolument clé. On doit donner aux gens la capacité de se servir de ces gigantesques pouvoirs que le numérique leur donne aujourd'hui, que ce soit en termes de liberté d'expression, que ce soit en termes d'éducation, que ce soit en termes de création d'entreprise, que ce soit en termes de services qu'on se rend entre nous. Dans tous les cas, on doit apprendre aux gens à se servir de ces nouveaux pouvoirs que le numérique leur donne.
Merci de nous recevoir.
Merci, effectivement, dans une logique critique. Donc Antoine Cherlot donc dirige l'antenne Pays de la Loire du Comité 21. Et donc c'est lui qui a particulièrement été actif, mais avec l'ensemble de l'équipe du Comité 21 que je remercie encore. Et donc, maintenant, on passe aux questions-réponses. C'est à toi.
Merci, Gilles. Alors, on va continuer ce débat passionnant avec un échange avec la salle. Donc, le principe est assez simple. Il suffit de lever la main si vous avez une question, de vous présenter et, si possible, de faire une question relativement courte pour en prendre un maximum.
On le fait généralement au moment où il y a des...
Bonjour. Charlotte Debray de la Fonda, vos sujets me passionnent et je pense que beaucoup d'acteurs associatifs sont un peu à la... On s'est donné un peu pour mission de faire cette médiation et d'alerter les responsables associatifs. Ma question était portée sur le... Enfin, sur une, qui est plus une remarque qu'une question, mais si je vous écoute bien, il y a ces deux transitions puissantes qui ont lieu en même temps, mais qui sont sous-jacentes d'une deuxième, voire d'une troisième transition qui serait démocratique, puisque finalement, vous parliez de pouvoir d'agir que donne que confère le numérique, à condition de le maîtriser. Est-ce que derrière cette transition économique et écologique, il n'y a pas aussi un renouveau démocratique qui pourrait, auquel les associations, du coup, et les citoyens qui les animent pourraient contribuer?
Ah si, si, j'en suis convaincu. D'ailleurs, ça a commencé par ça. En gros, pour moi, ça fait totalement partie de la transition numérique. Dans la transition numérique, la première vague de transformation, elle a touché, en gros, les médias, le secteur de la culture, la musique, on l'a tous vu, ça a fait d'ailleurs les grands débats de début des années, enfin du milieu des années 90 et début des années 2000. Et ensuite, c'est la politique qui a été disruptée. En France, on l'a vu, hein, ça a été le traité constitutionnel européen. Moi, à l'époque, j'ai pas mal bossé là-dessus. Et ensuite, vous avez eu comme ça tout un certain nombre de transformations dans le champ politique par le numérique. Obama en a été une figure emblématique puisqu'il a utilisé Internet pour s'auto-organiser, pour organiser des masses. Et alors, notamment pour faire du porte-à-porte, ce qui fait d'ailleurs, pour moi, qui répond un peu à ta question tout à l'heure, c'est-à-dire que le numérique ne virtualise pas, à mon avis, le numérique, ça outille, et ça outille souvent, en fait, pour faire des choses extrêmement concrètes, extrêmement physiques. Obama, il a utilisé Internet pour réunir et organiser des masses de gens pour faire du porte-à-porte. Voilà, plus la révolution des petits dons en ligne. Voilà, c'est ça. Et si vous regardez le printemps arabe, les printemps arabes, c'est pas du tout des révolutions Facebook, hein, parce que Moubarak ou Ben Ali ne seraient pas partis si on leur avait simplement fait une page Facebook leur demandant de partir. Hein. Ils en sont partis.
Et ils maîtrisaient plutôt bien l'outil.
Et ils maîtrisaient plutôt bien l'outil. Ils en sont partis, en fait, parce qu'il y avait des milliers de manifestants sous leurs fenêtres. Bon. Mais en revanche, ce que fait le numérique, et qui est extrêmement intéressant, et là encore, qui est totalement ambivalent, c'est que le numérique permet en fait aux masses de s'auto-organiser, y compris de sortir du dilemme du prisonnier, qui fait que si vous êtes 10 à descendre sous les fenêtres de Ben Ali, il vous embarque dans un panier à salade, il vous jette en prison. Si vous êtes 100 000, il ne pourra rien faire. Et le numérique a permis ces choses exceptionnelles d'organiser un énorme débat public, parce qu'il faut quand même revenir, j'ai dit que ça s'était dégradé. Mais la Tunisie, un mois avant la révolution, un mois avant, vous avez le Tunisie-Gate. On a oublié le Tunisie Gate, c'est la révélation par WikiLeaks des câbles diplomatiques américains sur ce qui se passe en Tunisie. Et ça provoque mécaniquement une inscription massive de Tunisiens sur les médias sociaux. Qu'est-ce qui se passe un mois avant la révolution ? Les gens débattent. Il y a une énorme conversation en Tunisie sur les prébendes de la famille Ben Ali, de la famille Trabelsi, etc. Donc, ce que le numérique fait déjà, c'est qu'il crée cette agora. Je ne dis pas qu'elle est parfaite, je dis que effectivement, il y a des dérives qu'il faut apprendre aux gens à mieux s'en servir, mais c'est quand même un acquis absolument monstrueux qui fait qu'aujourd'hui, on a dans le numérique une plateforme de débat public qui donne un droit qui jusque-là était théorique et pas pratique. La liberté d'expression, elle était très théorique. Il n'y avait qu'une minorité de gens qui avaient le droit de s'exprimer. Qui passait à la télévision ou s'exprimait dans les journaux ou publiait des livres. Moins d'1% de la population. Aujourd'hui, vous avez 3 milliards d'individus qui peuvent s'exprimer. Alors, ça a évidemment des conséquences terribles parfois, mais c'est quand même une avancée démocratique incroyable pour peu qu'on sache l'attirer du bon côté. Et la deuxième chose, c'est cette fameuse sortie du dilemme des prisonniers qui fait que les masses peuvent s'auto-autoriser. Organisé. Obama a organisé des troupes sur le terrain. Mais vous avez aussi des gens qui vont simplement s'organiser, qui vont se dire de manière très simple. Hein, si vous dites sur une page Facebook il y a 3 millions de personnes que vous descendez tous demain matin à tel endroit, vous pouvez mettre toute l'armée que vous voulez, vous n'arriverez pas à empêcher un flot humain d'y parvenir. C'est ça qui a fait tomber les dictateurs. Mais il faut avoir aussi à l'esprit que c'est ça aussi exactement le même phénomène qui crée les apéros Facebook et qui pose des problèmes d'ordre public qui sont terribles. Parce que vous avez 20 000 personnes sur une place à Nantes, vous avez des morts.
Alors, parce que c'est vous avez mis des morts un point de vue.
Et puis c'est aussi les émeutes de Londres, c'est les pilleurs qui s'organisent à partir d'Internet. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas en soi, Stigler qui est un philosophe,
j'attends une réponse sur Paul Ritter. Merci.
Comme le livre,
en prenant cela à Platon.
Le livre, est-ce que le livre est un progrès dans l'histoire de l'humanité? Bien sûr,
sur le vous, c'est parce un progrès. Les points de vue sont forcément différents.
Mais est-ce que le livre en soi est toujours bon?
Il y a deux questions.
Le numérique, c'est la même chose. Est-ce que le numérique et sa transformation est un progrès? Bien sûr, j'en suis persuadé. Je pense que ça permet, ça outille des transformations démocratiques absolument majeures. Mais en même temps, Mein Kampf, c'est un livre. Et en même temps, je vous dirais, dans le numérique, il y a des ambivalences. L'auto-organisation des masses qu'outille aujourd'hui et que permet Internet, elle permet à des dictateurs de tomber, mais elle permet aussi à des émeutiers de s'organiser. Dans les émeutes de Londres, on l'a vu.
D'autant aujourd'hui que tout le monde partage les compétences et que c'est. Tu parles d'époque où ils étaient très peu nombreux. Aujourd'hui, tous les partis politiques, toutes les associations, enfin, beaucoup de choses sont accessibles à un très très grand nombre avec une compétence qui est aussi de plus en plus dangereuse quand on parle de commerce ou de démocratie. Corinne, tu voulais réagir?
Oui, non, mais je suis d'accord avec ce que Benoît vient de dire. J'ajouterais que oui, ça peut faire tomber des dictateurs, mais ça peut aussi les provoquer, dans les deux sens. Et que c'est d'autant plus frappant que nos institutions sont incapables d'évoluer, en réalité. Tu disais que quand tu vois voter les gamins en 6e, tu as l'impression qu'on est sous la 3e République. Il n'y a pas que les gamins en 6e, quoi. Donc je veux dire
le Parlement tel qu'il existe aujourd'hui.
Il y a un décalage qui est flagrant. Alors on ajoute ça avec une certaine disons, déconnexion de la classe politique par rapport à la société, et c'est franchement extrêmement dangereux sur le plan démocratique. C'est-à-dire qu'il faut repenser complètement la démocratie qui ne se satisfait plus du tout d'une démocratie représentative. Sauf qu'on n'a pas les institutions qui vont avec une démocratie. Alors, je ne sais pas si le mot participative est bon, j'en suis pas convaincue, mais d'une autre nature, c'est-à-dire qui correspond précisément à la transversalité, au réseau, etc. Ça, on n'a pas encore vraiment inventé le système démocratique qui va avec. C'est pas, la question n'est pas un numéro de République. Je veux dire que ce n'est pas parce qu'on passe à la sixième que ça résout ce problème-là. Peut-être que ça le résoudra, mais à condition qu'on s'y attaque et pas seulement au problème institutionnel. Donc, moi, je suis très, j'ai été très frappée par le livre de Pierre-Rosan Vallon qui vient de sortir, que je trouve extrêmement intéressant et qui, peut-être pour la première fois, pose vraiment bien le problème. En expliquant que la question de la gouvernance, ce n'est pas avant l'élection, c'est après. C'est-à-dire que le système démocratique pour choisir les élus, soit. Mais ce qui est essentiel, c'est ensuite qu'est-ce qui se passe. Et dans un système comme le nôtre, où on a en fait une monarchie constitutionnelle, à peu de choses près, une monarchie républicaine, les corps intermédiaires qui sont censés être des contre-pouvoirs ne le sont pas du tout. Et par voie de conséquence, le système démocratique est complètement faussé, puisque le citoyen, lui, est dépouillé jusqu'aux prochaines élections, et les représentants ne jouent pas le rôle de contre-pouvoir dans notre système. Donc, ça ne marche pas du tout. Voilà, donc je pense qu'il y a un effort à la fois politique et juridique considérable à faire pour penser des institutions qui vont avec ce système. Mais ça, c'est le sujet est devant nous.
Et d'ailleurs, la grande marche sur le climat qui a eu lieu l'année dernière, qui va avoir lieu cette année, n'a pas du tout été organisée par des associations environnementales, mais par Havas, qui est avant tout un grand acteur du numérique, et qui, lui, a été capable de mettre 400 000 personnes, enfin 380 000 personnes dans la rue. Et quand Havas dit aujourd'hui la priorité, c'est le climat, ça pèse plus que l'ensemble des organisations environnementales. Antoine.
Non, merci pour... Pour ces éléments de réponse, je vous invite à tourner la tête vers la gauche.
Qui permettent un relais
Valentina.
Informatif et pas un relais qui vienne dire voilà, la grille est là. On a toujours cet impact et le réchauffement lui-même fait partie de ces débats dans lesquels on dit je ne veux pas entendre.
Avec l'IDRI, la Fondation Sciences Po sur le développement durable, bien sûr l'école. Comme partenaire professionnel, on a WeShare, donc Benjamin que vous venez de mentionner tout à l'heure. On a Paris Sud. On a un projet qui nous est financé par le ministère du développement durable dans le programme Movida pour évaluer un peu les promesses sociales, environnementales de l'économie collaborative, donc de la sharing economy. Donc c'était un projet vraiment censé faire un assessment de ce qui se passe sur le terrain. Tout ça.
Non, quand on
et
parle
en fait, nous, à OSCP, nous avons notamment étudié les porteurs de projets. Donc on a étudié 40 initiatives des acteurs de l'économie collaborative. Et en fait, on se rend compte qu'au niveau des promesses, il y a beaucoup de promesses réformistes, de liens sociaux, de promesses environnementales et tout ça. Et on a un constat très fort, après avoir mené ces entretiens, c'est qu'en fait, le lien social, la prise de conscience, la volonté réformiste, un peu la contre-culture qui veut dépasser les grandes entreprises contestataires, tout ça, elle est très forte. Ces aspects-là sont très forts. Le grand absent, nous semble être la promesse environnementale. Le degré de maturité à d'outiller des instruments de mesure, de se rendre compte quel est l'impact ou quel est effectivement un effet de rebond éventuel parce que des sites dans lesquels on échange des produits, est-ce qu'on n'incite pas la surconsommation et tout ça, on a le grand vide. On y était allé avec beaucoup d'attentes et en fait, oui, c'est un grand résultat. Ils n'ont rien raconté, ces gens-là, sur ces aspects-là. Oui, une exception d'une entreprise qui essaie de développer avec la mais on comprend que ça fait partie aussi d'un gros projet de communication. Bon, bref. Quel est votre avis? Qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de se retrouver avec toute la vague de greenwashing qu'on a eue pour les entreprises traditionnelles?
Aussi pour remettre à plat et pour revenir.
Parce qu'en fait, oui, il y a la volonté de changer le monde.
C'est celle, effectivement, comment on éduque les gens.
Il n'y a pas de démarche viable pour l'instant sur ces questions. C'est difficile.
On sait qu'on va vivre des choses compliquées et que l'humanité n'a pas le temps de s'adapter.
En tout cas, sous son réponse, mais
et d'autant que 2 milliards de personnes sont
quelques pistes de réflexion. 2050,
ce qui est quand même
sur le greenwashing, je crois que c'est un constat très partagé.
On ne sait plus prévoir non plus précisément. En tout cas, les démographes,
c'est assez évident.
Voilà. Donc, mais je crois que c'est aussi du renforcement de capacité.
En contrepartie, plusieurs choses.
Leur faire confiance.
La première, c'est que vous avez quand même des secteurs économiques.
La vraie difficulté aujourd'hui de l'enseignement,
c'est demandeurs.
Ma position, c'est créer
parce que c'est leur business.
Et effectivement,
c'est leur manière
y compris
de gagner
dans une école
leur vie.
De management, d'être capable de parler environnement,
développement
durable, santé, etc. Et montrer qu'il y a des interactions.
La prise en charge
qu'on
de la question environnementale. Bon, c'est vrai,
comment s'y en avoir, mais ils n'ont pas 15 ans.
C'est énergétique, c'est
des
vrai,
études
des gens
qu'on a aujourd'hui, ils n'en ont non plus.
Dans,
ça a été longtemps une démarche réservée à certaines
c'est vrai,
hyper
des gens qui
aujourd'hui
sont dans le renouvelable, etc.
C'est partagé
donc
par
ça,
la société.
Et
quand l'OMS annonce
50% premier point. Deuxièmement, je pense qu'on commence à observer une réflexion de la finance.
Alors après, en réaction à la
c'est-à-dire que
un
certain nombre d'organismes, à commencer par les réassureurs, parce que le mouvement est venu
moi,
des réassureurs, puis des assureurs, puis
la
des fonds de pension, puis des banques,
très raisonnable
ça
et plutôt
s'intéresse très sérieusement à la question du carbone.
Expérience mondiale exceptionnelle
à trois niveaux.
Effectivement, le doute
d'abord
fait,
en considérant
qu'il
y a un risque carbone pour les entreprises qui ne traitent pas le sujet.
Se trouve instrumentalisé sur 6 000, il y en a un ou deux.
Tout simplement parce que
de l'histoire et d'une démarche
le carbone va d'une manière ou d'une autre être payé et que par voie de conséquence, la rentabilité des entreprises qui s'asseyent dessus est fortement compromise. Deuxième risque carbone, c'est un risque marché. À partir du moment où effectivement on considère que ce sujet est majeur et qu'il est coûteux de carboner. Les gens qui sont sur un secteur économique carboné, je pense au charbon, par exemple, pour commencer, mais il n'y a pas que, sont sur des secteurs peu durables, par voie de conséquence, pas nécessairement finançables. Et le troisième point, c'est le risque majeur qui s'appelle risque amiante, mais ce n'est pas que l'amiante, c'est-à-dire le risque d'une rupture brutale d'une entreprise parce qu'elle a fait un choix qui s'avère, qu'elle savait dangereux, catastrophique. Ça pourrait peut-être s'appeler Volkswagen Gate dans quelques temps. Autrement dit, le fait de ne pas prendre au sérieux un sujet majeur dans le domaine sanitaire et environnemental peut se révéler un risque vital pour l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui commence à venir et qui, si effectivement la finance s'y met, va évidemment avoir des conséquences sur les entreprises, c'est-à-dire qu'elles pourront plus se contenter. Aux consommateurs, elles peuvent greenwasher. À leurs banquiers ou à leurs experts comptables, ça ne marche pas. Ça, c'est du dur et on ne raconte pas n'importe quoi. Donc là, je pense qu'on a peut-être le début d'une évolution. Puis le dernier point, c'est évidemment les consommateurs, mais les consommateurs, encore faut-il qu'ils sachent et qu'ils puissent. Il y a les deux. C'est-à-dire qu'ils aient l'information et que financièrement, le choix soit possible. Et là, il y a beaucoup de progrès à faire.
Merci.
Je veux peut-être compléter. Alors, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit au début. Un peu moins sur la fin. C'est-à-dire que moi, je pense que le numérique, à terme, empêche ce genre de choses. Ça l'empêche. Pour deux raisons. D'abord parce que le monde numérique va avoir des tas de capteurs, des tas d'indicateurs dans tous les sens. Et donc, en fait, il va y avoir de plus en plus de données qui vont objectiver, en fait, ces débats. Mais de plus en plus, je veux dire, on va savoir de manière complètement tracée les modes de production, quelle est en réalité l'empreinte carbone. Et donc, faire du greenwashing dans 10 ans ou dans 20 ans, ça va être de plus en plus compliqué. Parce qu'en réalité, on va être dans un monde très connecté dans lequel la production elle-même laisse des traces très concrètes de comment elle est produite et des externalités négatives qui peuvent aller. Et par rapport à ça, on va avoir du coup une possibilité de faire circuler l'information de manière très forte. Là où je vous rejoins, c'est que encore faut-il laisser aux gens la possibilité de faire ces choix. Mais en tout cas, ces choix-là, ils vont être de plus en plus face à nous. Hein. Et donc, pour le coup, moi, pour le coup, c'est, pour moi, c'est un exemple absolument parfait de comment le numérique peut outiller en fait la transition écologique en créant cette plateforme unique au fond, où l'information circule, où les données sont concentrées, sont croisées, et où il y a en plus une plateforme de débat public derrière tout ça. Je pense que on empêche le potentiel de greenwashing tel qu'il a pu se déployer depuis 20 ans.
Allez-y, vous avez le micro, commencez, madame.
Oui, vous êtes d'accord, en fait.
Je suis d'accord avec deux nuances. Je m'appelle la première, c'est le secret industriel. Vous savez comme moi que les entreprises sont extrêmement attentives à voir étendre le champ du secret industriel de manière à ce que ce que l'on appelle les données brutes ne soient pas dans le domaine public. Et pour m'être beaucoup battue au Parlement européen sur ce sujet, précisément pour qu'il y ait le plus possible de données brutes mises en ligne, je peux vous dire que ce n'est pas gagné. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on risque de se retrouver face à une difficulté que on connaît bien dans le domaine sanitaire et environnemental, c'est celui de la preuve. C'est-à-dire que vous pouvez toujours avoir une entreprise qui dit, on va lui dire, attendez, vos eaux sont totalement dégoûtantes. Oui, c'est possible, mais ce n'est pas moi. C'est l'autre, c'est celui d'avant, c'est celui d'à côté, et donc rentrer dans des débats dans lesquels le consommateur d'abord n'aura pas le temps d'entrer. Et on sait très bien que les groupes industriels sont extrêmement calés pour entretenir des études bidons, pour entretenir des débats qui n'ont pas lieu d'être. Et pour financer des études qui sont 10 ans ou 20 ans plus tard totalement contredites, sauf que pendant 10 ans ou pendant 20 ans, ça a marché. Bon, l'exemple typique, c'est les cigarettiers.
Oui, parce que d'autres personnes veulent s'exprimer.
Mais
quel est le pourcentage réel du CO2 dans la composition de l'atmosphère ?
Il m'a été indiqué que Exxon disposait depuis 30 ans d'études extrêmement précises sur l'impact du pétrole sur le changement climatique. Ce sont les mêmes qui ont quand même financé pendant 30 ans.
Merci. On va pouvoir répondre. On va prendre les deux.
Qu'il n'y avait pas
deux questions, monsieur.
Mais moi, je pense que ce sera beaucoup plus difficile pour elle de faire exactement la même chose.
C'est possible.
Parce que, juste, vous avez raison sur le secret industriel, etc. Mais je vous dirais, quand on s'appelle la NSA, qu'on est donc les services secrets les plus puissants de la planète, qu'on a des procédures de contrôle absolument monstrueuses et qu'il y a quand même un gamin à l'intérieur de cette NSA qui un jour avec quelques clés USB se barre avec l'ensemble des informations, vous dites que le secret industriel, parce que les gens vont avoir de plus en plus conscience de ces problèmes-là, les secrets industriels, à mon avis, les cadavres qui sont dans les placards des entreprises, ils vont avoir tendance à sortir de plus en plus. Et aujourd'hui, je ne sais pas, vous vous souvenez de 1000 milliards de dollars, le film avec Patrick Devers, dans les années 70, à la fin, il avait un problème de diffusion de l'information. Je ne sais pas, vous vous souvenez de ce film. Il allait dans une espèce de courrier local où il utilisait le papier du tirage d'une année pour une seule journée. Parce que le problème, c'était comment est-ce qu'il va rendre public cette information.
Okay, merci.
Aujourd'hui, vous n'avez plus aucun problème. Je veux dire, un lanceur d'alerte aujourd'hui, il va dans un cybercafé, il publie, ça se diffuse sur la toile. Et donc, ça va être compliqué quand même pour les entreprises dans les années qui viennent de garder des secrets qui vont poser des problèmes de conscience à leurs employés.
Je crois aussi qu'il faut faire un peu attention à la simplification. Toutes les entreprises ne font pas du greenwashing, c'est-à-dire l'usage abusif de l'argument environnemental. Et il n'y a pas que les entreprises qui font. Il y a des collectivités, des politiques qui font ça absolument très bien, et des ONG qui peuvent aussi, de temps en temps, user de façon un peu abusive de l'argument environnemental. Je crois qu'on est tous, quelle que soit la motivation financière, enthousiaste, etc., c'est jamais oui et non. Ça peut être aussi, il y a un curseur, voilà, et qu'il y a un élément dont vous n'avez pas parlé tous les deux, qui est absolument fondamental, c'est qu'il y a des gens qui travaillent dans ces entreprises, y compris les plus grandes greenwashers quand ce sont des entreprises, et qu'on voit quand même bouger les générations, et dont les élèves des maisons comme ici, ou que maintenant, quand on arrive dans une grande entreprise et ces jeunes talents brillants que veulent avoir toutes les grandes entreprises, bah, ils demandent le rapport environnemental. Et je crois qu'il y a une vraie vision aussi, et il faut voir ce que peut porter comme drame humain la question de Volkswagen à l'intérieur de cette société, qui est par ailleurs plutôt pas mal sur le plan de la vie sociale, etc. Donc je crois qu'il faut vraiment faire très très attention sur la question du greenwashing. Il y en a, on en connaît, etc. Là, c'est vraiment une lutte à avoir, mais il y a aussi tout l'univers derrière où tout est gris et c'est jamais blanc et noir. Quoi. Antoine, est-ce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps ?
Il nous reste peu de temps. J'ai quatre questions en commençant par Muriel Labrousse.
Oui, Muriel Labrousse, Mediapeps. Je vais poser la question suivante. On voit bien qu'avec la numérisation de la société, de l'économie, un effet aussi bottom-up, est-ce qu'on voit qu'il y a une perte de pouvoir des États ? Est-ce qu'on ne va pas créer d'autres États bien plus puissants qui seront
évidemment,
Google, Facebook,
il nous reste,
etc.,
il nous reste
avec aussi tout le danger
finir.
De la vente des données. Il y a Elise Husset qui a fait une investigation l'autre jour qui faisait froid dans le dos sur la commercialisation des données. Donc je voulais avoir votre avis là-dessus.
Si, moi je pense que c'est un vrai sujet. Ça m'a valu d'ailleurs il n'y a pas très longtemps de rencontrer le PDG du Bon Coin, parce que vous avez, je crois, dans la préface du rapport Ambition numérique, il y a un moment donné, les infrastructures deviennent en réalité le lieu des pouvoirs. De la même manière que les États ont été créés au moment où il a fallu gérer collectivement un certain nombre d'infrastructures physiques, les routes, les relais de poste, les chemins de fer, les grands services publics, éducation ou autres. Bon. Les États ont été créés pour ça, pour gérer collectivement, pas d'ailleurs de manière démocratique au début, puis se sont démocratisés. Aujourd'hui, ce sont les infrastructures qui gèrent une grande partie en réalité de nos vies. Et donc effectivement, si les États n'arrivent pas à se moderniser, et aujourd'hui ils n'y arrivent pas, il faut 20 ans pour faire un dossier médical partagé qui marche pas trop, il faut des années pour numériser le service de Pôle emploi, etc. Et le risque, en fait, c'est que à la fin, ce soit Apple Santé qui gagne et qui devienne la Sécu, le Bon Coin qui devienne la gestion des offres d'emploi. Bref, il y a une vraie concurrence de ces plateformes vis-à-vis des grands services publics, avec des questions qui sont complexes pour ces services publics, parce qu'ils ont évidemment des modes d'organisation et de régulation qui les empêchent d'aller très très vite, mais il y a aussi des exigences sociales que l'on formule à leur endroit qui les empêchent parfois d'ailleurs de se moderniser, alors que vis-à-vis de ces propriétaires-là, on n'a pas du tout ces exigences-là. Et je vous donne un exemple. Il y a eu un énorme débat dans les années 90 et 2000 pour savoir s'il fallait autoriser des cartes d'identité électroniques biométriques. Et des gens comme moi ont été les premiers à dire « Oh, quand même, on trouve ça un peu gonflé, que l'État constitue une base de données unique de l'ensemble des empreintes digitales d'une population. » Voilà, et j'étais, moi aussi, comme beaucoup de gens, plutôt choqué par ça. Et puis un jour, il y a Apple qui a lancé un truc très simple en disant « Voilà, vous pouvez juste arrêter de taper votre code. Voilà, vous enregistrez juste votre empreinte digitale. » Et en un clic, je l'ai accepté. Ça veut dire qu'en fait, j'ai accepté qu'une entreprise privée américaine sur laquelle j'ai assez peu de pouvoir, qui me fait valider les conditions générales d'utilisation que je ne lis pas, comme vous tous. Et finalement, j'ai aucune exigence, et vis-à-vis de mon État, pour lequel j'ai quand même un droit de vote, donc pour peser sur ces évolutions, j'ai des exigences qui sont plus grandes. On est schizophrénique dans ce débat, et je pense qu'il faut justement qu'on réfléchisse à tout ça, parce que sinon, effectivement, il y a un risque terrible que si les États ne se mettent pas à jour, d'une certaine manière, on n'aura plus qu'une seule solution, c'est de réclamer le droit de vote chez Google, Facebook, Amazon ou autre. Quoi. Et dans ce débat-là, on est 15 jours après l'annulation du Safe Harbor par la Cour de justice des communautés européennes, le CJCE. Moi, je m'en réjouis. Je m'en réjouis énormément parce que lorsqu'on a été saisi sur le traité transatlantique, sur lequel on a émis un avis réservé en disant on n'est pas contre l'harmonisation des normes qui sont dans ce traité. En revanche, on s'inquiète des capacités de négociation des Européens face aux Américains, parce que quand on regarde toutes les choses qu'on a signées en matière de numérique depuis 15 ans, je pense aux accords de l'OMC en 95 sur le data flow, je pense au Safe Harbor en 2000, mais très honnêtement, on s'inquiète parce qu'on voit très bien qu'en 2000, les Américains arrivaient à la table des négociations en se disant il faut qu'on obtienne ça des Européens. En gros, en 2000, ils voyaient déjà le big data de 2015. Les Européens, manifestement, ne le voyaient pas du tout. Et donc, l'annulation de Safe Harbor, pour moi, est une opportunité pour renégocier par le haut en ayant une vraie vision stratégique de ce que sont les données. Et je pense en empêchant qu'elles puissent se balader n'importe où et qu'elles soient sous des régimes juridiques qui ne sont pas ceux décidés par les Européens.
Merci. Antoine, peut-être on va prendre les trois dernières questions parce qu'il nous reste vraiment 5 minutes.
Alors, Dominique Martin-Ferrari.
Oui, moi j'avais deux questions. L'une qui poursuit dans le sens que vous venez de développer sur la schizophrénie dans laquelle nous sommes et qui permet de nuancer un peu ce que disait Gilles tout à l'heure concernant le rôle de justement plateformes telles qu'Avaaz. on a aussi ce risque absolu que la mise à jour des problèmes, des cadavres dans le placard, comme vous disiez, soit maintenant si commun et si quotidien que finalement les gens n'y attachent plus d'importance et que la seule activité publique ou citoyenne qui nous reste, c'est de signer une pétition sur Internet et qu'on ne bouge pas. Et on le voit dans l'affaiblissement aujourd'hui de toute la société citoyenne française. Vous n'avez plus d'activistes, vous n'avez plus de gens qui se déplacent sur le terrain. Vous avez maintenant une espèce de civilisation de signataires sur Internet qui croient avoir rempli leur job. Donc, j'aimerais qu'on puisse en parler un petit peu. Ma deuxième question va plutôt vers Corinne. On fait demain un atelier sur la ville numérique et on s'aperçoit qu'en France, cette espèce de mythe de la ville numérique se trouve quand même liée au problème du choix que tu évoquais, c'est-à-dire est-ce qu'on a le choix de son diffuseur d'électricité puisque tout va fonctionner d'une manière extrêmement centralisée, et qu'est-ce que veulent dire ce type de discours où on se réapproprie sa ville, on se réapproprie en tant que citoyen sa ville, alors qu'en plus on devient sur une espèce de modèle clé en main, de plus en plus maîtrisé, au contraire, par les pouvoirs publics.
Alors, peut-être on va prendre les autres questions, si tu veux.
Alors, deux autres questions. Valéria Maillot.
Oui, bonjour, Valéria Maillot, responsable développement durable de la FNAC. Moi, j'ai une question sur un frein qui me semble évident à cette transition, à ce nouveau monde, qui est celui des intérêts personnels de nos élites. On parlait de l'intérêt des États, mais je le vois aussi en entreprise. Et donc, je me demandais comment la révolution numérique pouvait contribuer aussi à faire émerger de nouvelles...
Il y avait, je crois, une dernière question.
Bonjour. Claire Allais, je suis rédactrice en chef adjointe à Alternatives économiques. Vous disiez, Benoît Tullien, que le modèle d'Airbnb n'est pas durable. Et j'ai tweeté votre propos et un journaliste m'a répondu « Ah, il devait dire ça de Facebook il y a quelques années déjà ». Donc, d'où ma question. A priori, Airbnb n'est pas prêt d'être enterré. Donc, ça fait appel à la question de la régulation. C'est-à-dire, quelle régulation il faut poser à ces acteurs. Ça pose des questions en termes de fiscalité,
au grand palais, du travail,
vous avez dit tout à l'heure, et si jamais il y a un incendie. Et aussi, ça pose la question de quelle place, justement, pour le Parlement, le gouvernement, l'État.
Il y a une proposition, par exemple, faite par le Sénat, de poser un seuil de 5 000 euros en dessous. On n'a pas besoin de déclarer. Au-dessus, il faut déclarer.
C'est la position du Conseil, d'ailleurs.
Donc la règle est extrêmement un pays du Nord, du Sud, de
Paris. Quels sont vos avis sur ces éléments de régulation qu'il faudrait poser aujourd'hui.
Voilà, alors, merci beaucoup. C'est un vrai point de départ aujourd'hui, mais on a encore plein de choses à se dire. Et n'oubliez pas aussi la conférence au Grand Palais.
Ma banque est aussi une plateforme. Les grandes plateformes numériques, je ne parle pas de GAFA, je pense que leurs fondamentaux aujourd'hui ne sont pas durables.
Encore merci beaucoup à l'ESCP.
C'est un problème. Ce n'est pas un système durable.
Merci à tous de préciser que GAFA, ça veut dire Google, Amazon, Facebook.
Je ne précise pas trop, parce que je n'aime pas ce terme, je le trouve discriminant, parce qu'encore une fois, je sais aussi ce que je dois à Facebook, à Google, à Amazon, dans l'innovation du
Apple.
Monde. Enfin, je veux dire, Google a changé ma vie, Apple aussi, Facebook aussi. Il est probable qu'il n'y a pas beaucoup de décisions prises par les derniers présidents de la République qu'on ait pu avoir, qui aient à ce point changé nos vies. Donc, je veux dire, c'est juste pour ne pas avoir un discours stigmatisant. Voilà. Je pense que Google est une grande boîte, Facebook aussi, Amazon aussi, et elles ont changé nos vies de manière positive. Pour autant, ça ne m'empêche pas de penser qu'il y a un certain nombre de leurs fondamentaux qui ne sont pas durables. Ne pas payer ses impôts dans un monde qui a besoin de financement collectif, ça n'est pas durable. Alors, je le dis pas, je le dis effectivement de toutes ces plateformes. Alors, on peut me dire, elles vivent encore. Oui, elles vivent encore. Enfin, vous savez, Facebook, ça a moins de 10 ans. Hein. En France, ça a débarqué en 2007. Donc, je veux dire, tout ça va très vite quand même. Hein. Google, la thèse de Google, c'est 98. Hein. C'est pas il y a 50 ans. Donc, je veux dire, ces choses vont très, très vite. Donc, les éléments de régulation, il y en a plusieurs. D'abord, je pense qu'il y a une question fiscale. Il faut la régler. Ça n'est pas normal. Et, entre nous soit dit, ce ne sont pas que les multinationales du numérique, les multinationales françaises elles-mêmes s'acquittent assez peu de l'impôt et elles mettent en danger aujourd'hui le système qui pourtant les protège parce que c'est les États qui régulent la propriété intellectuelle et que c'est les mécanismes de propriété intellectuelle qui sont utilisés contre les États pour ne pas payer l'impôt. Donc il y a une vraie question là-dessus. Ensuite, sur les questions d'économie collaborative, oui, nous on a proposé différentes d'ailleurs histoires de seuil en fait, précisément pour essayer un tout petit peu de mieux distinguer peut-être la différence qu'il peut y avoir, par exemple, entre un couchsurfing ou un Airbnb, ou à l'intérieur même de ces modèles, ce qui est en fait de l'ordre du service rendu de pair à pair, ou de l'appoint, et du vrai business. Quand il s'agit d'une industrialisation de l'économie collaborative, je pense que ça doit être fiscalisé et que ça doit être socialisé, c'est-à-dire qu'il doit y avoir la protection sociale forte qui doit peser sur elle. Mais en revanche, quand c'est un métier d'appoint, ou quand c'est carrément du non-marchand, je vous rends un service, vous me rendez un service. Là, je pense qu'il n'y a pas nécessairement de problème. C'est pour ça que, pour moi, la question des seuils, elle demande à être discutée, auditée, etc. Ça peut être 5 000 euros, ça peut être 10% de votre chiffre d'affaires, ça peut être plein de choses différentes. Mais en tout cas, il faut qu'effectivement, on se pose la question. Quand vous vendez quelques trucs que vous avez produits vous-même sur Etsy ou sur eBay, quand vous faites un peu, d'Airbnb pour arrondir vos fins de mois, ce n'est pas un problème. Quand ça devient un vrai business, bah, ça peut être une concurrence déloyale, le fait que vous en fassiez un vrai business, mais que vous, d'une certaine manière, vous vous affranchissez de la régulation, par exemple, de l'hôtellerie. Ben ça n'est pas normal. Je veux dire. Parce que dans ce cas-là, si vous extrapolez ce modèle, ça veut donc dire que le numérique n'est simplement qu'un levier d'une totale dérégulation. Moi, je ne suis pas un libertarien ultra-libéral. Je pense que ce n'est pas ça et que le numérique ne doit pas viser à ça. En ce sens-là, c'est ça que je dis lorsque la question des fondamentaux de l'économie numérique sont posés en termes de durabilité, de soutenabilité du modèle.
Merci. Alors Corinne, sur les deux questions, l'élite et la question démocratique, même et Havas, c'est quand même Havas qui a mis les. C'est pas que du clic. C'est Havas qui met 380 000 personnes dans la rue l'année dernière. C'est pas que du clic. Ah bah, c'est Havas qui a tout organisé et qui a pris l'initiative.
C'est Havas qui a eu l'initiative. Ensuite, il y a beaucoup de gens. C'est vrai.
Tout le monde a relayé. C'était une bonne chose.
Qui ont suivi. Je pense que parfois il y a des actes concrets derrière les mobilisations. Ça peut être des actes concrets sur des comportements. Bon, en France, on n'a pas le droit de faire de boycott. Mais on peut avoir, sans faire de boycott, des orientations.
On peut ne pas avoir envie d'acheter des produits.
On peut ne pas avoir envie. Ça peut exister. On peut avoir des évolutions de comportement. Donc je crois quand même que ça peut déboucher sur des actions concrètes. Parce que sinon, effectivement, on reste dans le virtuel. On s'est fait plaisir, mais ce n'est pas ça qui a bouleversé les choses. Alors, sur la question, votre question sur les élites... moi, je pense qu'on a besoin d'un très profond renouvellement de nos élites. C'est pour ça que j'essaie de défendre la société civile, parce que je pense que c'est elle qui doit aujourd'hui pouvoir venir au pouvoir, justement, au moins à égalité avec ceux qui font profession de faire de la politique, tout simplement parce que pour moi, la politique n'est pas un métier. Voilà. Bon, mais ça, c'est un point de vue personnel hein, qui n'engage évidemment que moi. Je pense que faire de la politique, ça devrait être ce qui est le plus noble dans la vie, parce que c'est s'occuper des autres, mais qu'on fait ça une époque de sa vie, ensuite on fait autre chose. Ça veut dire avoir un métier, ça veut dire savoir comment ce qu'est la vie réelle. Pour moi, c'est comme ça que ça devrait se faire. Sauf que chez nous, c'est pas comme ça que ça se fait, et c'est une partie du problème. Maintenant, il faut réfléchir à comment on fait pour que la société civile puissent venir aux manettes. On est quelques-uns à réfléchir sur le sujet.
Un mot de conclusion à l'aube de la COP21 sur ces sujets, mais un mot parce qu'on doit vraiment boucler.
Je pense que ce qui va être très positif à la COP21, c'est la mobilisation de la société civile, justement. Et puis, j'espère que la déclaration sera au moins lancée à la COP21, non pas que je considère que c'est la panacée universelle, ni que ce qu'on a écrit est aggravé dans le marbre, parce que ça sera certainement à faire évoluer ce texte. Mais c'est une nouvelle étape qui reconnaît des droits collectifs, c'est-à-dire que des droits et des devoirs collectifs, tout simplement parce que les droits de l'homme sont toujours aussi indispensables, mais ne suffisent pas à répondre à la question climatique ni à la question des enjeux face au nombre que nous sommes aujourd'hui, c'est plus une question de droits individuels, c'est une question de survie collective. Et par voie de conséquence, il faut raisonner collectif, et nous n'avons pas de déclaration de droits qui correspondent à des droits et des devoirs collectifs. Et c'est là-dessus, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller.
Merci, Benoît.
Je voudrais juste, moi, répondre sur la question démocratique. Je crois que, vous savez, la démocratie représentative, c'est pas un horizon indépassable de notre temps. Hein. Enfin, moi, je sais pas du tout la conviction que j'ai. Ça a été inventé à un moment donné où on se déplaçait à cheval et on écrivait avec des plumes. Ça a été codifié, en gros, à ce moment-là, au début du 19e siècle. Ça a fonctionné. Mais très honnêtement, aujourd'hui, on doit réfléchir à des nouveaux mécanismes démocratiques et dans lesquels, je pense, la société est beaucoup plus impliquée. Cette mécanique qui consiste à déléguer le pouvoir et à sanctionner ensuite, le fait est que, là, systématiquement, depuis 40 ans, on délègue, on sanctionne, on redélègue, on sanctionne, c'est qu'il y a un problème, ça ne marche pas, le disque est rayé. Hein, c'est que les gens ne sont pas contents, donc ils sortent à chaque fois les sortants et ils renouvellent. Et on a même l'impression qu'on va de pire en pire et qu'on est capable de porter au pouvoir des gens auxquels on n'aurait jamais pensé jusque-là. Donc ça veut dire qu'en fait, nos institutions sont à repenser complètement. Je ne sais pas si c'est la démocratie participative, en tout cas, c'est une forme de participation différente. Et je serais moins sévère que vous sur Havas. Pour moi, la question, elle est peut-être beaucoup plus que dans nos comportements deviennent politiques. C'est peut-être ça, en fait, la vraie transformation. C'est que je pense que, en gros, dans une société beaucoup plus désintermédiaire, beaucoup plus de pair à pair, au fond, beaucoup plus relocalisée, comme notre économie qui doit l'être, mais je dirais peut-être la société politique aussi, elle doit l'être, d'une certaine manière, je pense qu'on va de moins en moins se dire, au fond, on attend à ce que le collectif décide et impose, et finalement, le comportement individuel est presque secondaire. Moi, je me demande si dans une société qui est très politisée, parce que c'est ce qu'il faut, il faut politiser la société, eh bien, je crois que de plus en plus, c'est dans les comportements individuels, et ces comportements individuels, le numérique, il va d'une certaine manière les révéler beaucoup plus qu'avant. Alors, avec des problèmes éthiques que ça va poser, mais quand même, oui, mais quand même. Voilà, si je fais du vélo, eh ben, ça va savoir, je vais avoir une application qui va le montrer, et puis cette entreprise qui est plus verte, on va avoir des indicateurs qui vont le montrer, et les gens vont plutôt aller travailler dans cette entreprise plutôt que dans une autre, comme, comme tu le disais très justement tout à l'heure. Bon, voilà, tout ça pour dire que je pense que, encore une fois, on est au début d'une révolution profondément politique. Je pense que le numérique, c'est une révolution de l'empouvoirment, de l'empowerment, et qu'au fond, c'est une redistribution de tous les pouvoirs.
Merci. Bah écoutez, je crois qu'on va continuer la discussion au Grand Palais, notamment grande disruption face au climat. Vous verrez, ce sera intéressant. Et faites-moi confiance, parce que je vais avoir plus de temps au mois de janvier. Moi, je vais pouvoir reprendre ce qui est quand même ce sujet qu'on a besoin de faire avancer, parce que la question, effectivement, c'est comment fonctionne ce monde d'après, parce que comme tu l'as très justement dit, Corinne, tout à l'heure, notre seule finalité ici, c'est quand même la qualité de vie partagée. Merci, bravo à tous les deux, merci à l'ESCP et à très vite.